Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, 19h, 20h30. Alors ce soir, on va se demander si on va tirer ou pointer avec nos invités, puisqu'on va largement parler pétanque avec, j'allais dire, des clubs et des représentants importants des différents clubs sur Paris et sur l'Île-de-France. Je vais d'abord commencer à présenter Bernard Guillolot, le secrétaire général du comité de Paris de pétanque et de sport boule, c'est ça? Bonsoir Bernard.
Oui, c'est ça, bonsoir. Hein,
on peut considérer que vous êtes des personnalités importantes pour votre sport.
Quelque part, oui. Ouais, puisque voilà. Si on n'était pas là, il n'y aurait pas beaucoup de joueurs de pétanque sur Paris, voilà. Et pas beaucoup de concours.
Et puis, vous êtes accompagné de... Ah, je l'ai reconnu, il avait commenté la pétanque sur Canal, c'est Claude Azéma. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Ça va? Avec Pierre-André Lacou, vous aviez commenté à l'époque?
Pierre-André Lacou à l'époque, oui, c'était une émission qui était faite spécialement par le service de production, parce que Thérèse Esport, à l'époque, n'en voulait pas.
Ah bon, ouais. L'ami Charles Biétry n'en voulait pas, bizarrement. Mais enfin bon, d'ailleurs, on a une énorme pensée pour lui. Président de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal, c'est ça, hein?
Oui, et aussi président de la Confédération mondiale de sport de boules, qui s'appelle maintenant, oui, World Pétanque and Balls Federation, parce qu'il faut taper dans l'anglais pour être bien vu à l'international.
Très bien. Et puis, troisième invité, c'est Jacques Théron, hein, qui était un ancien vice-président de la Fédération française de pétanque et de sport de boules. Bonsoir, bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Oui, approchez-vous un tout petit peu plus près du micro, ça sera mieux. Voilà, donc ancien président, mais toujours actif quand même auprès des amis, des copains.
Disons que je suis devenu un spectateur assidu.
Voilà, très bien. Et puis, je vais saluer notre ami Alexandre, qui nous a concocté un beau journal des sports. Ça va, Alexandre?
Ça va très bien, Philippe. Ça va à fond. Et gros journal des sports.
Très bien, ouais, oui. Et puis, on retrouve Vanessa, qui avait pris quelques jours de vacances la semaine dernière. Elle travaille tellement que c'était accordé un petit peu de repos. Bonsoir, Vanessa, ça va?
Bonjour à tous et bonjour, ouais. Philippe. Ravi de revenir.
Oui, donc, tu nous feras un petit peu le point olympique. On aura d'ailleurs une interview aussi qu'on a ramenée. Eh oui, il faut savoir tout faire quand on est reporter sportif de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où on a eu l'occasion d'assister au dévoilement des anneaux olympiques. Et puis on aura aussi notre partie foot en fin d'émission avec notre ami Stéphane Desenclos. On parlera sûrement du 12e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Alors, messieurs, Bernard, question simple, comment va la pétanque sur Paris et sur l'Île-de-France? C'est un sport qu'on peut pratiquer finalement assez facilement dans la capitale quand même, hein.
On dira partout. Spécialement dans la capitale.
Oui, non, mais là, puisque... vous venez représenter la capitale quand même.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais bon, c'est un sport qu'on peut pratiquer partout. Mm-hmm. Et quelque part, on pourrait même dire que c'est le sport le plus pratiqué en France, puisque tout le monde a dans sa vie au moins joué une fois la pétanque, ce qui n'est pas le cas pour le football, par exemple, qui ont le plus grand nombre de licenciés. Mais tout le monde a joué à la pétanque.
Oui, mais alors, la pétanque, il y a le sport loisir et il y a le sport compétition, hein. C'est pas tout à fait pareil.
Ah, bien sûr, il faut séparer les deux. Hein.
Et vous, cette passion, elle arrive comment?
Elle arrive comme beaucoup, assez jeune, parce qu'on a des personnes de la famille qui jouent, et puis on est entraîné un petit peu. Et voilà, moi, j'étais de la campagne où il n'y avait pas beaucoup d'activités, hein, dans le Morvan, donc... la pétanque faisait partie justement des activités ludiques. On se retrouvait sur la place du village avec toutes les familles, un petit village d'une centaine d'habitants. Ouais. Donc on se retrouvait, ça faisait passer les dimanches. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ouais. Et par contre, après, ma première licence est assez récente, puisque c'est dans les années, c'est en 90, quand Claude Azéma, qui est avec nous aujourd'hui, a créé le club de l'Assemblée nationale. Et comme j'étais fonctionnaire à l'Assemblée nationale, j'ai pris ma première licence et je suis devenu le trésorier du club pendant 32 ans.
Ouais. D'accord, ok. Donc c'est une tâche passionnante, exaltante.
Oui. C'est-à-dire que quand on est habitué à organiser, moi j'ai commencé à être bénévole à 12 ans et là je vais en avoir 69, vous voyez. Donc quand on est habitué à organiser des manifestations, des choses comme ça, on ne peut pas s'en passer.
Alors, en préambule, je disais, on va pointer ou tirer. Vous êtes pointeur ou tireur?
Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui je joue, mais je suis à très petit niveau, moi. Je ne suis pas un grand joueur de boules. Je suis surtout dirigeant.
D'accord. Et vous, Claude, alors? Vous qui avez été donc, qui êtes président de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal, parce qu'il n'y a pas que la pétanque.
Non, à l'international, mais c'est le seul pays où jeu provençal, c'est la France.
Ouais.
Donc, quand les autres pays ont leur fédération, il n'y a que le mot pétanque à l'intérieur, où de temps en temps, c'est de tous les sports de boules, parce qu'à part en France, la plupart des pays regroupent à la fois la pétanque, la lyonnaise, et puis un bidule italien qui s'appelle la Rafa. Mais nous, l'international, pour nous, c'est la Fédération internationale de pétanque. Il n'y a que dans la Confédération mondiale qu'il y a les trois sports de boules.
Alors, la lyonnaise, c'est les boules plus grosses, c'est ça, hein?
La lyonnaise, c'est des boules un petit peu plus grosses, faites différemment. D'ailleurs, on dit que ça vient tout des Romains. Et les plus courageux sont venus jusque dans le nord, à Lyon, avec des plus grosses boules. Les moins courageux sont arrêtés à Marseille, ils ont joué avec des plus petites boules. Voilà.
Mais c'est un monde à part aussi. C'est un monde à part, ceux qui jouent à la lyonnaise.
Non. Il y avait un défaut en France des anciens dirigeants de la lyonnaise qui avait un petit peu, on va pas dire un complexe de supériorité, mais quelque chose comme ça. Maintenant, on s'entend très bien au niveau international. En tout cas, on est ensemble, on travaille dans le même sens, on a les mêmes interventions au niveau international, au niveau des organisations mondiales. Donc, ça se passe très bien à l'international. Et en France, j'ai l'impression que ça va un peu mieux maintenant que ça n'a été dans le temps.
Oui, et vous, la pétanque, c'est un sport de votre plus grande jeunesse, quoi?
Bah, pas vraiment. J'ai commencé par jouer au rugby beaucoup. Ouais. Et
petit accent du sud.
ça dépend des moments. Là, je rentre de Montpellier parce que je suis un peu allé encourager l'USAP, comme je suis de Perpignan à Montpellier.
Ça va pas bien, Montpellier.
Non, on n'était que 5000 à Montpellier, mais c'était bien.
Au rugby, ça va pas bien, là.
Et en fait, je me suis mis à jouer à la pétanque quand j'allais chez mes grands-parents, parce que j'étais dans un département, le Jura, où il n'y avait pas de comité de club de pétanque. Donc, avec quelques bons joueurs, on s'est mis en place et on a créé le comité de la Fédération française de pétanque. Et voilà. Alors, au début, vous rentrez, vous êtes au club, puis après au comité, puis après à la fédération.
Et aujourd'hui, donc, président de la Fédération internationale. C'est un sport universel, finalement?
Ah ben pour nous, oui. Là. Rien que la Fédération internationale de pétanque compte plus d'une centaine de pays sur les cinq continents. Et en nombre de membres, on ne peut pas parler en nombre de licenciés parce que c'est une notion qui est vraiment française et aux alentours au démarrage. Tous les pays d'Asie n'ont pas un terme de licence, mais dans les membres des fédérations, membres pratiquants, on estime autour de 20 millions de membres dans les fédérations qui jouent en compétition. Quoi. C'est très, très important. Comme en France, on parle de 300 000 actuellement. On était arrivé à 500 000, mais avec de manière un peu spéciale de faire licence. Mais même en France, il n'y a que 300 000 licenciés. On pense que dans les clubs affiliés à la fédération, il y en a à peu près le double. Il y a au moins 600 000 personnes. Et si on prend tous les clubs amicaux qui jouent, les clubs de troisième âge, les amicales, il y en a certainement plus de 2 millions aussi en France qui font des petites compétitions et qui ont des clubs regroupant des pétanqueurs.
Et vous, Jacques, alors?
Eh bien moi, entre autres, j'ai été fondateur du comité de Paris en 1969. Parce que jusqu'en 1969, il n'y avait qu'un comité en Île-de-France qui regroupait les trois départements de l'époque, c'est-à-dire la Seine, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne.
Eh oui, à l'époque, c'était ça.
Les départements ont été créés en 1964 et les comités départementaux de pétanque en 1969.
D'accord. Et donc, vous avez vu ce sport grandir, évoluer sur l'Île-de-France et sur la région parisienne?
Je l'ai vu évoluer, mais malheureusement, je l'ai vu aussi décroître au point de vue nombre de licenciés.
Ah bon, il y a moins de gens qui jouent?
Notamment à Paris.
Ah oui?
À Paris, il faut savoir qu'en 1987, nous étions 6319 pour 71 clubs. À la fin 2003, il n'y avait que 32 clubs pour 2029 licenciés.
Alors, pourquoi il manque des infrastructures?
Alors, ou c'est Paris a beaucoup d'inconvénients.
Ouais.
Vous avez l'inconvénient numéro un, c'est très difficile à se garer et c'est coûteux. Et nous avons également un gros problème qui nous a fait beaucoup de tort, c'est que tous les terrains de football en terre qu'il y avait jusqu'à présent sont tous devenus synthétiques. Or, on utilisait beaucoup les terrains de football pour faire de grandes compétitions.
D'accord.
Voilà. D'ailleurs, la pétanque en France survit beaucoup grâce à nos villages.
Oui,
c'est
bon.
Pas les villes qui font le gros des licenciés.
Alors justement, Bernard, il y a un problème actuellement. Il y a un club, et on l'a vu médiatiquement partout, même dans l'équipe, qui se bat pour garder donc ses infrastructures et sa section. C'est à Montmartre. Hein. Le président, il a failli venir, mais bon, il est en réunion ce soir.
Et oui, le président m'avait promis au départ de venir ce soir et pour parler justement de leurs gros problèmes. Mais
alors, que se passe-t-il?
Il était en réunion avec la mairie de Paris. Oui. Je pense que c'était encore plus important pour lui.
Bien sûr.
Voilà,
bien
mais
sûr.
Il se passe qu'ils font partie des terrains qui risquent de disparaître, qui sont amenés à disparaître sur Paris. Donc, ce n'étaient pas des grands, grands terrains, mais l'avantage, c'est qu'ils avaient beaucoup de licenciés. Ils avaient cette année 298 licenciés. C'était le plus gros club de Paris. Et on a peur au niveau du comité de Paris que malheureusement, sur ces 298, il y en ait au moins les deux tiers, voire les trois quarts qui ne reprennent pas de licence, puisque c'était des habitants du 18e de la butte de Montmartre. Ouais. Et si évidemment le club changeait d'arrondissement, et on risquerait de perdre tous ces licenciés.
Et qu'est-ce qu'on veut y faire à cet endroit?
Alors, à cet endroit, je ne veux pas rentrer dans les détails et risquer de compromettre un petit peu l'avancée. Mais bon, à cet endroit, c'est un terrain qui appartient à la mairie de Paris et qui, normalement, était... était demandé par l'hôtel qui se trouvait juste à côté. Voilà. Et...
D'accord, c'est ok. Cette, donc c'est l'hôtel qui veut le racheter.
Cette option-là qui aurait été retenue pour qu'ils en aient une grande partie.
Oh, ça va s'arranger, je pense. On connaît un peu Pierre Rabadan, ça va s'arranger quand même.
Oui, enfin, pour l'instant, c'est un petit peu mal parti, on va dire, puisque c'est passé devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a donné tort au CLAP.
Ah, d'accord. Voilà.
Donc ils étaient normalement menacés d'expulsion. Et là, ils occupent le terrain jour et nuit. Pour essayer un petit peu de défendre leur cause. Mais j'ai peur pour eux. J'ai peur.
Bon. Sinon, vous avez combien de clubs de recensés actuellement?
Alors,
sur
cette
Paris
année, nous avons 35 clubs. Nous avons deux nouveaux clubs par rapport à l'an dernier. Et nous avons, à la date d'aujourd'hui, puisque je sors du comité, nous avons 2079 licenciés.
2079.
Alors, 2079, c'est une cinquantaine de plus que l'année dernière. Mm-hmm. Mais on est loin de retrouver les effectifs qu'on avait avant Covid, où on en avait 2003.
Ouais, 2003. Ouais. Mm-hmm. Autant de femmes que d'hommes en pétanque. Il y a beaucoup de femmes qui jouent à la pétanque.
Il y a pas mal de femmes qui jouent, mais on est loin d'être à égalité.
Ouais, d'accord. Ouais. OK. Donc, le club le plus important, c'est lequel?
Eh bien, pour l'instant, c'est le CLAP.
Ah là là !
Pour l'instant, c'est notre fameux CLAP, voilà, comme je disais tout à l'heure, le plus grand club de Paris avec ses 298 licenciés. Mmh. Après, c'est un autre club de la butte Montmartre qui s'appelle la Pétanque du Tertre.
Bah alors, ils peuvent faire fusion ?
Avec 150 licenciés. Mais non, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas fusionner puisqu'ils sont déjà limités en surface. Ouais. Donc, ils limitaient systématiquement à 150 licenciés à la pétanque du Tertre, alors qu'il y avait beaucoup de demandes, il y avait des gens en attente. Et ils limitaient à 300 au niveau du CLAP.
Mmh. Donc, la tranche d'âge, quand même, vous avez des jeunes qui pratiquent ce sport?
Très peu, très peu.
Ah, faut dire tu vois, Alexandre
Très peu, il faut dire qu'à Paris, on est... à mon avis, encore plus touché que certains autres départements. Je parlais tout à l'heure des départements de province où là, les jeunes ont peut-être l'occasion de jouer un peu plus. À Paris, je pense qu'ils sont attirés par...
Il y a un folklore en province en plus.
À Paris, je pense qu'ils sont attirés par d'autres activités. Ouais. Et là, on a du mal à développer ça chez les jeunes. Là, on est reparti un petit peu cette année. On a réussi à faire des championnats de Paris avec des équipes de jeunes, ce qu'on n'avait pas réussi à faire depuis plusieurs années parce qu'on n'en avait pas assez. Et on a créé, depuis l'an dernier, on a créé deux écoles de pétanque
qui fonctionnent,
qui accueillent des jeunes, ils s'en occupent, ils font pas mal de manifestations et on espère que ça apportera des jeunes.
Et pour l'Île-de-France?
Pour l'Île-de-France, c'est un petit peu le même cas. Il y a des départements où ils sont un petit peu plus aisés que nous, dans le 77, le 92, où là, il y a quand même des jeunes, au 94 aussi, voilà, où ils peuvent. Mais à chaque fois, bon, les qualificatifs pour les championnats de France se font au niveau de la région. Et c'est souvent des jeunes de ces départements-là qui
sont qualifiés. Oui, parce qu'on parlait des revêtements tout à l'heure, donc les stades de foot qui ont changé. Sur quel revêtement vous pratiquez votre sport?
Nous, on va dire que c'est un petit peu tous les terrains, mais en général, c'est des terrains en terre ou en grave ciment. Voilà. Mm-hmm. Ce qu'on trouve sur les, sur les trottoirs qui ne sont pas bitumés, par exemple.
Et vous êtes tributaire de la météo. C'est un sport qu'on ne peut pas... L'hiver, c'est difficile, quoi.
D'autant plus que sur Paris, on a le malheur de ne pas avoir de terrain couvert.
Eh oui, c'est ça.
Voilà, vous avez des villes qui ont plusieurs boulodromes, pour certaines, plusieurs boulodromes couverts. Et nous, sur Paris, on n'en a pas un seul. Ce qui fait que on est en pleine période de championnats départementaux. Mmh. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu un seul week-end où on n'a pas eu de pluie. Ah, on était même au point d'annuler un championnat.
Bon, parce qu'une saison, elle commence de quand à quand ? Au printemps, elle termine à l'automne ?
Alors, la saison sportive, elle est du 1er janvier au 31 décembre, on va dire, puisque la licence, elle est sur une année civile. Ouais. Maintenant, les compétitions importantes, pour nous, ce sont les championnats départementaux qui sont suivis par les championnats régionaux et les championnats de France, commencent fin mars, dernier week-end de mars. Voilà. Donc, jusqu'à mi-mai, pour les championnats départementaux. Après, de mi-mai jusqu'à mi-juin, vous avez les championnats régionaux. Toutes ces compétitions qualifient pour les championnats de France. Et à partir du 15 juin, vous avez les championnats de France qui commencent jusqu'au premier week-end de septembre, avec une petite coupure au mois d'août, évidemment, due aux vacances.
Bien sûr. Et alors, ça se passe comment une compétition ? Compétition individuelle, en duo, mix, en triplette, comment ça se passe ?
Vous avez à peu près résumé, les trois configurations, donc tête à tête, doublette et triplette.
D'accord. Et on choisit ce qu'on veut ou on se spécialise ?
Après, il y en a qui ont des préférences, mais à partir du moment où on joue à la pétanque, le jeu est le même. Après, il y a le problème de l'entente avec les partenaires.
Ouais, on peut concourir dans deux compétitions différentes, c'est-à-dire jouer en solo et puis jouer, par exemple, en triplette.
Les dates pour les championnats de Paris sont des dates différentes.
D'accord.
C'est pour ça qu'on est pris tous les week-ends, du dernier week-end de mars jusqu'au 15 mai.
Et est-ce qu'on est obligé d'avoir les mêmes partenaires ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du
tout. C'est-à-dire, à chaque compétition, si on fait des triplettes, on peut changer de partenaire.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Mm-hmm. Oui, parce que ça arrive
Lorsqu'il y a des qualificatifs, si on fait deux qualificatifs pour un championnat, vous pouvez faire un qualificatif avec un partenaire. Si vous ne vous qualifiez pas pour la poule finale, vous pouvez, au deuxième qualificatif, changer de partenaire.
Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'il y a des compétitions mixtes ?
Oui, aussi.
Oui.
Il y a des compétitions, ce qu'on appelle les compétitions seniors. Vous avez des compétitions pour les féminines et vous avez des mixtes.
D'accord.
Voilà. Alors, pour les mixtes, évidemment, c'est que doublette et triplette.
Oui, d'accord. Jacques, vous avez connu beaucoup de filles qui jouaient à la pétanque ? Vous avez connu beaucoup de femmes qui jouaient à la pétanque ?
À mon époque, il y en avait beaucoup moins. Maintenant, je constate, pour m'en réjouir, qu'il y a davantage. Et surtout, nous avons des belles femmes maintenant qui jouent au boule et qui jouent bien.
Ouais, d'accord.
Et alors, le gros avantage des compétitions mixtes, c'est que souvent, la dame apporte une certaine sérénité
dans
les équipes.
Ouais, ouais, ouais.
Et d'ailleurs, en Île-de-France notamment, il y a de plus en plus de compétitions mixtes et qu'il y a énormément de gens... Comme on dit, la femme est l'avenir de l'homme, je crois que c'est bien la vérité. Et à la pétanque, et ce qu'on peut aussi remarquer à la pétanque, c'est que nous avons de plus en plus de dirigeants d'âmes qui s'investissent très bien. Et c'est une bonne chose pour notre pétanque.
Oui, oui. Claude, quels sont les pays qui pratiquent le plus ce sport ? Madagascar, je crois, est très bon.
Bah, ils ont des très bons joueurs, mais ça dépend ce qu'on entend par qui pratique le plus. Ce que vous voyez souvent, les Malgaches, c'est les Malgaches qui habitent en France et qui essayent de dire qu'ils sont l'équipe de Madagascar, ce qui est tout à fait faux. Ah. Mais bon, ça leur fait plaisir, c'est pas grave. Non, les pays qui pratiquent le plus en nombre, c'est curieusement, c'est bon, évidemment la France qui est au-dessus largement, mais dans les pays où il y a beaucoup de pratiquants, c'est la Thaïlande, le Japon. En Europe, il y a beaucoup de monde, mais beaucoup moins de gens qui jouent que dans ces pays. Et puisqu'on parlait de la mixité, il faut savoir que bon, la place des féminines, la place de la femme dans la pétanque, c'est la même qu'elle a dans le sport, c'est la même qu'elle a dans la société. Donc dans les sociétés où la femme n'a pas une grande place, vous ne trouvez pas beaucoup de femmes qui jouent à la pétanque. On a eu le cas de pays d'Afrique et des choses comme ça. Par contre, quand elle a eu sa place normalement est reconnue, elle est à peu près à égalité dans le nombre des gens. Il y a beaucoup de féminines en Asie, c'est pratiquement 40%, voire 50%. En Europe centrale aussi, dans tous les anciens pays de l'Est ou dans les pays nordiques, il y a énormément de féminines. Dans les pays qui sont plutôt machos, on va prendre la France, si c'est le cas, on va prendre l'Italie, ben la pétanque s'est développée d'abord dans les bars, il n'y avait que des hommes qui jouaient, puis la femme bon, était vraiment, vraiment écartée. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de pourcentage. En France, on est même pas à 20%. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux autres pays, c'est la moitié moins. Voilà. Ce qui fait quand même en nombre beaucoup de personnes. Bon, en France, ça fait quand même 50, 60 000 féminines qui jouent. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup en nombre, c'est peu en pourcentage.
Oui. Vanessa, ça t'inspire un commentaire ?
Ben oui, je me demandais... Parce que justement, parce que c'est quand même un sport qui est un peu un rituel des fois de famille où on joue tous ensemble. Mais finalement, en Asie, en Thaïlande peut-être en particulier, qu'est-ce qui fait que les femmes, même si elles ont peut-être une place plus importante à ce moment-là, vont plus jouer qu'en France finalement ? Parce que c'est vrai que d'un côté en France, des fois c'est un peu un cercle fermé. C'était peut-être à une époque les hommes qui allaient jouer ensemble. Et puis des fois, on joue en famille, mais c'était un peu club fermé. Mais là-bas, qu'est-ce qui explique que justement en Thaïlande, il y ait cette pratique ou dans d'autres pays ?
Ce qui explique essentiellement, c'est que la pétanque qui a commencé, non pas comme chez nous, des parties amicales. Bon, l'avantage et le désavantage de la France, c'est que la pétanque, c'est à la fois un sport que tout le monde connaît et un sport de haut niveau. Donc, les gens qui disent non, ce n'est pas très grand sport parce que tout le monde peut y jouer, ouais. Dans ces pays-là, ça a commencé par le haut niveau. En Thaïlande, par exemple, ça a commencé parce qu'un jour, la reine mère qui vivait en Suisse a trouvé ce sport intéressant et qui a imposé en son pays le fait que quand les militaires jouaient, eh ben, parfois, ce serait compté dans leurs heures d'exercice. Qui les intéressaient bien plus que de faire du crapahut. Donc, hommes et femmes se sont mis à y jouer. C'était un sport qui était dirigé par l'équivalent des préfets dans les régions. Donc, il y a eu un développement d'État directement. Donc, ils ont commencé par le haut niveau. Et après, c'est ça qui a développé dans toutes les gazans d'abord, dans toutes les écoles. En Thaïlande, il n'y a pas une école ou pratiquement pas une école primaire où il n'y a pas un groupe de jeunes qui fait de la pétanque, où il n'y a pas de l'entraînement, etc. C'est vraiment considéré comme le grand sport.
Est-ce que peut-être finalement c'est aussi un petit peu relié avec l'esprit, entre guillemets, je mets des guillemets asiatiques, où justement, par exemple en Corée, pour le tir à l'arc, ils apprennent ça à l'école. C'est un peu cette culture du sport dès l'école. Et est-ce que c'est aussi un lien peut-être
Ah ben ça sert certainement. Ouais, en France, pourquoi le sport a tant de mal, c'est qu'on ne fait jamais de sport à l'école primaire. Vous auriez comme dans de très, très grands pays, des profs de sport pour même plusieurs écoles primaires. Si tous les enfants faisaient du sport à l'école primaire, vous aurez bien plus de sportifs, bien plus de haut niveau et plus facile à gérer. On est en retard sur beaucoup de pays à ce niveau-là, pour le sport en général, je veux dire. Donc pour la pétanque, forcément, puisque c'est encore plus difficile de faire de la pétanque dans une cour qui est bétonnée ou qui est goudronnée que de faire d'autres disciplines sportives, quoi.
Et j'ai une petite question sur l'origine. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que ça venait des Romains. Alors à l'époque, est-ce que c'était en bois ? Est-ce que c'était à peu près les mêmes règles ? Si vous savez, peut-être.
Les règles ont beaucoup évolué. Au début, on jouait avec des pierres. Ils ont commencé à jouer avec des pierres. Ouais. Après, on a joué avec des boules en bois qu'on a fait clouter pour pas qu'elles explosent. Et puis, on est venu aux boules en acier. Le matériel a énormément évolué. C'est sûr.
Alors, justement, pour le grand public, les règles, c'est quoi ? C'est en 15 points ?
La règle de base, c'est 13 points. Et maintenant, de plus en plus, pour des obligations de durée, pour des obligations de télévision, on fait des parties au temps. C'est-à-dire que dans tous les championnats du monde, vous avez des parties qui sont limitées en temps. Pour pas que ça s'éternise. Moi, j'ai connu une partie, il y avait Nouvelle-Zélande contre Japon, c'était en 2002 ou 2004. Elle a duré 3h30 parce qu'il n'y en a aucun qui savait tirer une boule. Donc, dès qu'il y en a qui venait près du cochonnet, les autres essayaient de tirer, ils manquaient, ils empilaient des boules autour. Donc. Ça faisait 1, 2, 1, 3, 1, etc. 3h30, donc c'est impossible, ça vous fiche une compétition par terre. Quoi.
Donc la règle officielle a changé, alors c'est plus 13 points.
Non, mais ça a été aussi 18 points, 15 points.
15 points, c'est ça, à un moment, 13 points.
Mais ça, c'était pour faire briller, pour faire jouer un peu les gens un peu plus. Quoi.
D'accord, donc maintenant, c'est autant.
À l'international, maintenant, c'est le temps est imposé
c'est
partout.
C'est combien de temps?
Alors ça dépend, si vous êtes en triplette, vous jouez 1h15, et si vous êtes encore égalité, vous faites 2 mains supplémentaires. En doublette, c'est 1h et en tête-à-tête, des fois, c'est 45 minutes. D'accord. Mais ça, c'est pour les championnats du monde. Après, les pays l'adaptent. Les parties au temps et le système nouveau qui a été inventé vient de l'Europe centrale. C'est eux qui ont été les promoteurs. Ils trouvaient que c'était que les gens ils jouaient trop à attendre. Ils avaient trop de temps à attendre. Ils préféraient faire plusieurs parties. Donc, c'est eux qui ont imposé ça et ça s'est développé bien. Alors en France, c'est plus difficile parce que comme c'est ancestral chez nous, s'il y en a qui voudraient continuer à jouer comme, on va dire comme au XXe siècle, au milieu. Quoi. Donc c'est vrai que les parties autant ont du mal à faire leur place en France, ce qui fait que vous avez des concours qui finissent à minuit, 1h du matin, 2h du matin et qui n'ont plus d'intérêt pour les parties finales.
Bernard, c'est quand même différent, la compétition et le loisir, il faut quand même se le dire. Hein. Voilà.
Oui,
c'est un peu comme le ping-pong et le tennis de table, c'est pareil. Hein.
Exactement, ouais. Exactement. Voilà. Alors, voilà. Je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Claude tout de suite. Bon, nous, en France, évidemment, on est resté sur des parties en 13 points.
Ah, quand même.
Ah oui, tout ce qui est compétition en France, partie en 13 points, bon, qui peut éventuellement être adapté. Les premières parties en 11 points pour aller plus vite, surtout en jeu provençal qui est très long, puisqu'elle a des parties comme hier, on avait le championnat triplette provençal.
Oui, mais ce n'est pas un désavantage.
La dernière partie a duré 4 heures.
Oui, ce n'est pas un désavantage pour votre sport d'avoir comme ça des règles différentes.
Non, pas forcément. Bon, nous on est habitués en France à jouer en 13 points, comme le disait Claude.
Mais ça leur passera.
C'est dans les voilà. où ça gêne beaucoup par rapport aux autres sports, c'est que quand vous partez et que vous allez faire un concours, vous ne savez pas à quelle heure vous allez rentrer, vous ne savez pas combien de temps les parties vont durer. Quand vous allez jouer au football, vous savez que vous avez deux mi-temps de 45 minutes, avec une coupure de 10 ou 15 minutes. Là, quand vous partez, vous ne savez pas si vous allez rentrer, si vous perdez rapidement. Il y en a qui savent qu'ils vont pas aller très loin, donc ils rentrent vite. Mais après, si vous allez en fin de concours, vous ne savez pas déjà combien il y a d'engagés, combien vous allez être obligé de faire de parties pour arriver jusqu'en finale. Donc là, c'est pour ça que ça retient pas mal de monde.
Et donc, ça demande une énorme concentration. C'est ça la particularité de votre sport. Hein.
En haut niveau, ça demande quand même une concentration. Et c'est un petit peu ce qui fait la différence. C'est que c'est souvent des jeunes quand même qui gagnent sur les championnats de France ou les grandes compétitions, sur les nationaux, des choses comme ça. Ouais. Vous avez les joueurs expérimentés, bien sûr, qui profitent, comme dans tous les sports, de leur expérience. Mais après, vous avez le physique qui fait beaucoup. Quand vous allez sur des nationaux, des championnats de France qui durent 2 voire 3 jours. Il faut avoir
contrairement aux conditions physiques aussi des reçus, faut avoir une bonne condition physique. Donc c'est à dire que on peut faire des activités parallèles, un peu de footing, un peu de vélo, c'est préférable. On surveille son poids, c'est important, ça peut jouer le poids.
C'est important, mais surtout pour les vétérans. On s'aperçoit que les vétérans, par exemple, qui arrivent en fin de compétition, ce sont des vétérans qui s'entretiennent.
Et le public, il est comment? Il est enthousiaste dans un match? Parce que le problème, c'est qu'il faut faire le vide quand on joue. Justement, cette concentration, il faut peut-être parfois faire le vide. Un peu comme au tennis quand on sert.
Il est enthousiaste, oui, mais c'est un petit peu comme au tennis. C'est-à-dire que pendant les coups, il faut éviter de parler, de s'exprimer. Voilà. Donc surtout si c'est le tireur qui doit jouer et tirer une boule où il a besoin de beaucoup de concentration, là, évidemment, le public est... Et appelé à se taire.
Oui. Et il y a un peu d'intox entre les joueurs et joueuses. On essaie de perturber un petit peu les concurrents adverses.
Un peu beaucoup, quelquefois.
Qu'est-ce qu'on fait pour faire un peu d'intox pour, on fait un bruit.
On peut faire du bruit, on peut bouger au moment où l'adversaire joue, essayer de le troubler par des mots, essayer de jouer un petit peu sur le moral.
Alexandre, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, la pétanque, si c'est votre question, j'y ai déjà joué plusieurs fois.
J'ai joué
plusieurs fois, surtout quand je partais en vacances.
Non, mais
vers le bassin d'Arcachon et la Bretagne. Mais sinon, l'intox, en vrai, maintenant, fait partie du sport.
En plus, c'était le côté
loisir. Le chambrage, c'est
gentil.
Jamais de compétition, c'est sûr.
Et donc, les endroits les plus propices, c'est quoi? C'est le sud, c'est la Provence?
Au niveau du temps, surtout.
Tu pointes où tu tires, c'est ça?
Au niveau du temps, puisque nous, toujours pareil, on est tributaire donc des conditions météo. Ouais. Donc c'est vrai que sur le sud, et puis c'est vrai que c'est un petit peu associé à la pétanque aussi, le sud, le soleil, les vacances.
Ouais. Est-ce qu'on peut déjà vous rejoindre dans vos clubs ou faudra attendre maintenant la rentrée, le mois de septembre, tout ça?
Ah, on peut à n'importe quel moment de l'année prendre une licence. Voilà. Bon, après, une fois que les grandes compétitions sont passées, en général, on n'a plus beaucoup de licences. Là, j'étais, comme je vous disais, j'étais au comité tout à l'heure. Là, on a fait 3 licences dans l'après-midi, c'est tout. Ouais. La période de renouvellement de licences ou de nouveaux licenciés, c'est surtout le mois de janvier, février, mars, avant les championnats. Et après, bon, ce sont des petits joueurs qui rejoignent les clubs. Et ça, mais on fait des licences toute l'année.
Et ça, quel que soit donc la tranche d'âge. Donc, il n'y a pas de catégorie d'âge dans les compétitions, quoi.
Il y a certaines compétitions qui sont réservées. Pour les championnats de France vétérans, bien sûr, il faut avoir au moins 60 ans, des choses comme ça. Mais sinon, et puis là, les compétitions pour les jeunes aussi. Mais sinon, le reste du temps, les compétitions sont ouvertes à tous.
Ouais. C'est combien, après, un prix de licence, c'est combien ?
Un prix de licence ? Alors, le prix de licence, nous, au niveau du comité de Paris, il est fixe, bien sûr. Chaque comité départemental fixe le prix de sa licence. Sur Paris, elle est de 32 euros. C'est ce que nous encaissons des clubs, puisque ce sont les clubs qui viennent faire la demande de licence pour leurs licenciés, et eux. Et qui nous règle donc ce tarif de licence. Par contre, après, le club prend évidemment une petite part aussi. Donc, suivant le club, ce n'est pas le même prix. Vous avez des clubs où ils vont vous demander 40 euros, ils vont prendre juste 8 euros de plus, et vous avez certains clubs qui vont vous prendre plus de 100 euros.
D'accord. Voilà. Et quand on fait une compétition, il y a des droits d'engagement ?
Oui, il y a des droits d'engagement, mais qui sont intégralement reversés. Le club organisateur n'a pas le droit de prendre un centime, même pire.
Mais le compétiteur, il paye, lui.
Le compétiteur paye, voilà. Il paye son inscription. Et après, le club doit rajouter 25% de ses mises et qui sont redistribuées intégralement à tous les participants, à condition de gagner quelques parties.
Qu'est-ce qu'on gagne dans les concours ?
Ben justement, on gagne une partie des mises.
Ah d'accord.
Voilà.
D'accord, on ne gagne pas autre chose.
Non, éventuellement une coupe à la fin, mais c'est tout. Non, c'est un petit peu terminé le temps où il y avait des cadeaux en nature.
Oui, c'est ça, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de partenaires, un petit peu comme au golf, qui parfois sponsorisaient des concours et puis offraient des cadeaux, quoi.
Oui, bien sûr, on a eu des partenaires très connus.
Oui, on ne va pas les citer.
Qui faisaient des boissons.
C'est plus l'époque.
Voilà, des boissons anisées très connues.
Ouais, c'est plus l'époque.
Voilà, d'ailleurs qui donnait une très mauvaise image de la pétanque. Et c'est une image qui est restée et qu'on traîne depuis quelques années. Mais maintenant, on a du mal à trouver des partenariats. La pétanque n'est pas spécialement un sport porteur, on va dire.
Allez, on va écouter une petite pause musicale, liée à la pétanque. Hein, on a choisi la pétanque, ni plus ni moins, Sacha Distel. Hein.
En juillet dans le midi, dans chaque village on se dit, et voilà, voilà, enfin les Parisiens, on va encore leur apprendre à jouer à la pétanque. Quel raclé, on va leur mettre aux Parisiens, on sort les boules en attendant, et l'on s'entraîne en attendant, quand ça fait bang, tout le monde s'écrie avec la star. Encore un carreau en place. Histoire de les appâter, on les laisse d'abord gagner. Et faut voir la joie des Parisiens. Ils se prennent pour les champions quand ils sont près du bouchon. Et s'écrient les gars, ça y est, on tient. Oui, mais Fernand, à ce moment-là, leur dit, messieurs, excusez-moi. Ils ferment un œil, visent la boule et à chaque fois. Encore un carreau en place. On va boire le pastis sur le compte des Parisiens. Mais quand ils rentrent chez eux, ils racontent à qui mieux. Quel raclé on leur a mis au gars du coin. Et le lendemain, ça recommence. Et le lendemain, c'est la revanche. Car la pétanque, c'est vraiment les vacances. Encore un carreau
Allez, Fernand, tire volontiers.
Voilà, donc pour on aura Henri Salvador hein, en fin d'émission, un grand bouddhiste devant l'éternel qui a fait partie de vos clubs, je crois.
Ah oui, il a fait partie de notre club pendant quelques années. Mm-hmm. Voilà, il a été 11 fois champion de Paris de ouais. Provençal, comme ouais, on disait tout à l'heure.
J'avais eu l'occasion de le croiser à Port-Grimaud. C'est vrai qu'à l'époque, il jouait avec Eddie Barclay, ouais. Robert Chapat,
avec son ami Vartan Berberian.
Voilà, Stéphane Collaro, Patrice Lafont, enfin tous ceux qui. Voilà, tous les people. Alors, on va. En attendant, toutefois, maintenant, écoutez le journal des sports d'Alexandre. Grand et beau week-end, Alexandre de Sport. Hein.
Ouais, Philippe, journal des sports très chargé. Oui. On commence avec la fin du tournoi des 6 nations de rugby féminin. Pour ces derniers résultats, le Pays de Galles a battu l'Italie 22-20, l'Irlande a battu l'Écosse 15-12 et l'Angleterre a battu la France 42-21. Les Anglaises remportent donc ce tournoi avec 28 points. La France 2e avec 19 points, l'Irlande 3e avec 10 points, l'Écosse 4e, l'Italie 5e et enfin le Pays de Galles 6e. En top 14, le Stade français est toujours leader mais a perdu 41-18 face à Clermont et le Racing 92 perd 32-12 face au Stade toulousain. Donc le Stade français, malgré sa défaite, reste toujours leader, mais à 2 petits points du Stade toulousain. Et le Racing est à 1 point de Bordeaux-Bègles, 3e. En basket, se déroulaient les finales de Coupe de France à Bercy ce week-end. Et c'est Dijon qui a remporté la finale masculine 83-70 face à Strasbourg. Chez les femmes, Bourges a remporté la finale face au Basketland 76-63. Et en Betclic Elite, le Paris Basket remporte son premier match du week-end 84-80. À Bourg-en-Bresse. Les Parisiens sont 2e du championnat derrière Monaco Basket, mais avec un match en retard. Boulogne-Levallois et Nanterre 92 n'ont pas joué ce week-end, mais joueront respectivement demain contre Strasbourg et l'Ada Blois. En handball, les Parisiens ont gagné hier face à Dunkerque 34-27. Ils sont toujours leaders à 3 points de Nantes. Et derby du Val-de-Marne entre Ivry et Créteil qui s'est soldé par la victoire de Créteil 27-26. Ivry est 13e avec 14 points et Créteil 15e avec 12 points. Dijon ferme la marche avec 10 points. Et puis fin de saison en volet et Saint-Nazaire qui remporte la finale contre Tours 2-1. Gros parcours de Saint-Nazaire qui a fini 7e de saison régulière mais qui a su éliminer Nantes-Rézé et Tourcoing pour se hisser en finale. En sport mécanique, Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix Moto d'Espagne en terminant juste devant Marc Marquez et Marco Bezzecchi. A noter que le français Fabio Quartararo a terminé seulement 15e sur 17 à bord de sa Yamaha. Au classement des constructeurs, Ducati est largement devant KTM et Aprilia, Yamaha est 4e et Honda 5e. Il y avait également du cyclisme ce week-end avec le Tour de Romandie et Dorian Godon qui remporte la dernière étape, tandis que Carlos Rodriguez offre le général. Lenny Martinez termine seul français du top 10. Et enfin, on termine ce journal des sports avec le bilan des championnats de judo pour la France en Croatie. Et que de bonnes nouvelles, puisque notre équipe de France a remporté l'or dimanche lors du championnat par équipe mixte. Les Français ont dominé en finale les tenants du titre géorgien 4-0. Et il s'agit du second titre de la France dans cette discipline, après celui acquis en 2022.
Quel journal des sports, hein. Il y avait de l'actu sportive. Vous aimez le sport en général, hein.
Oui, bien sûr, on s'intéresse
à tous les sports. On parlait un peu de foot off tout à l'heure.
Oui, on parlait un petit peu de foot aussi, puisque je suis supporter de la GIA, vu que je suis né juste à côté.
Mon oncle est
entraîneur de l'équipe junior de la GIA.
C'est bien parti.
Voilà. Ouais. Et mon petit-neveu est photographe officiel de la GIA.
Vous voyez, d'accord. D'accord.
J'ai des attaches avec la GIA. D'accord. Et avec un match très important ce soir pour la montée en première division.
Bien sûr. Jacques, vous aimez le sport en général aussi?
Ah, vous savez, j'ai été arbitre de football à la Ligue de Paris. J'ai arbitré la bagatelle de 2007 matchs.
Oh là, d'accord.
Alors, okay. J'avoue qu'il y en a certains que je faisais pendant mes heures de service, mais il ne faut pas le dire.
C'est pas grave, il y a prescription. Hein. Voilà. Et Claude, vous, c'est plus le rugby?
Alors, c'était rugby à l'origine. Hein. J'ai joué évidemment à Perpignan, à l'USAB. Après, je suis monté à Paris. J'ai joué à la fac de droit. J'ai joué en universitaire. J'ai fait beaucoup de rugby. Mais au niveau du sport, je... toujours été baigné dans tout le sport. J'ai été membre du conseil d'administration du Comité national olympique sportif français. Là, je siège au sein de ce qu'on appelle l'IWGA, qui c'est les Jeux mondiaux, qui regroupent une cinquantaine de sports, plein, pas mal d'endroits au niveau international. Quoi. Donc, le sport en général m'intéresse.
Ouais. Alors, on peut regretter quand même en cette année olympique, ça va me permettre de faire le lien avec la page olympique, que les Jeux ne soient pas représentés à Paris pour les Jeux de 2024 dans quelques mois. Hein, sport officiel, je parle. Hein. Je parle.
J'ai bien
sport
compris.
Sport officiel. Hein.
Alors, on va faire. Je vais vous faire un peu de langue de bois.
Je parle
quand
pas
même.
De démonstration. Hein. Ouais, ouais.
Non, on va faire un peu une langue de bois. Simplement une démonstration. Tokyo avait on a le droit maintenant au sport additionnel. Tokyo avait choisi deux sports, le karaté et le baseball.
Oui.
Et le CIO, quelques mois après, leur a dit, écoutez, prenez donc trois sports pour des jeunes. L'escalade, le surf et quelque chose de roller. Tokyo a dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais donnez-nous les athlètes en plus. Et puis, quatre ans après, quand il sort les Jeux de Paris, les trois premiers annoncés, c'est une pure coïncidence, sont le surf, l'escalade et le skate. Mmh. Et quatre ans après, nouvelle coïncidence, ces trois sports rentrent dans le giron olympique en tant que sport du programme. Mmh. Donc, il y a une évolution qui a été voulue par le CIO, visiblement. Et puis après, les autres sports, on a fait des candidatures, mais ça nous a fait beaucoup de bien de faire cette candidature. Nous, on a fait 3 ans de candidature. Tout le monde disait ça va bien, ça marche bien. On a été reconnus, on a été intégrés dans des mouvements internationaux, à l'IWGA notamment, à l'ARIF, ce qui est l'Association des Fédérations Internationales reconnue. On a même siégé dans les comités directeurs. Donc ça a été vraiment, vraiment intéressant de faire ce chemin. Mais après, c'était le choix à incomber au comité on va dire, d'organisation, on va au Comité international olympique, et ce qui explique qu'on n'est pas rentré. Mais pour nous, c'est pas grave, c'est plus grave pour le karaté. Parce
français,
que...
C'est quand même un sport bien français.
Bien
quand
sûr,
même.
Bien
c'est
sûr,
dommage,
oui.
Quoi.
Ah oui, mais ça, faut en parler. Hein,
non, c'est bien.
C'est bien. Mais c'est le karaté, ça a été pire, puisqu'ils ont été introduits par Tokyo, et on les a écartés, on ne les a pas repris à Paris, alors qu'ils étaient dans les favoris. Si on avait fait un tiercé de favoris à Paris, karaté y aurait été, parce que le karaté était concurrentiel au taekwondo. Le taekwondo était un cheval de bataille du président du CIO, M. Barr. Donc, il ne fallait pas faire de peine à la Corée. Donc, surtout pas mettre le karaté pour ne pas faire de peine au taekwondo. Donc, le karaté ne sera pas non plus à Paris et ne sera pas davantage à Los Angeles, etc. Moi, mais faut pas s'inquiéter. Il faut toujours tirer le bon parti des choses côté. On a parlé des boules en général, de la pétanque et de la lyonnaise qui étaient candidats ensemble. On en a parlé et ça a fait connaître dans les gens aux alentours, dans le milieu international. Donc, c'est plutôt positif.
Oui. Bon, ces jeux, vous allez quand même les suivre.
Je vais les suivre même de près. Oui. Je vais travailler au sein du... voir faire les entrées avec le Club France et puis en tant qu'ancien membre d'organisation internationale, j'aurai un badge pour circuler assez librement, mais je vais surtout m'occuper à accueillir les gens. Quand j'étais à Rio de Janeiro, j'étais un des trois membres du CNOSF, même si j'y étais plus, pour aller chercher les invités, les amener sur les compétitions, les recevoir, etc. Ça, j'espère faire ça aussi cette année.
Eh bien, ça tombe très bien parce que les invités, ils arriveront par avion. Hein. Il y aura beaucoup d'étrangers. Et on a eu l'occasion mardi, sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 1, d'assister donc au dévoilement des anneaux olympiques. Hein. En plus, ils s'allument donc le soir. Alors, on va écouter les interviews qu'on a ramenées. Il y avait Augustin de Romanet, le PDG de l'ADP. Hein. Il y avait naturellement Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, des JO et des Jeux Paralympiques, et puis celui qu'on a régulièrement à ce micro, le président du COJO, Tony Estanguet. Et justement, on leur a demandé comment allait être organisé Roissy pendant ces Jeux.
Le CIO nous a confié la charge de prendre l'accréditation en compte. C'est-à-dire que l'athlète, lorsqu'il sortira de l'aéroport, devra avoir son badge d'accrédité. Donc nous avons prévu des espaces particuliers pour les athlètes, et puis aussi des espaces particuliers pour que les autobus puissent circuler correctement. Donc on aura une base arrière qui sera très considérable parce qu'un de nos gros soucis, c'est d'éviter les embouteillages de bus. Donc nous aurons des formations particulières pour les conducteurs. Nous avons expérimenté lors des Jeux de l'été dernier qu'une des grandes difficultés, c'était quand les conducteurs ne connaissaient pas la plateforme. Donc la charge de l'accueil des athlètes incombe au groupe ADP. Et ensuite, ces athlètes seront conduits au village olympique et sous la responsabilité du chef du village que Tony Estanguet pilote.
Vous avez un ordre d'idée du mouvement que ça va représenter ?
Oui, ça représentera à peu près 70 000 accrédités. L'élément le plus important, c'est les bagages. Et Tony Estanguet me faisait remarquer à juste titre qu'il faut que dès à présent, les compagnies aériennes soient sensibilisées au fait qu'on ne traite pas une raquette de tennis, une perche ou une pagaie de rameur ou de kayakeur comme on traite une vulgaire cantine de déménagement. Et donc, dès aujourd'hui, je lance un appel à toutes les compagnies aériennes pour qu'elles soient responsables et qu'elles mettent les équipements sportifs en haut de la pile dans les soutes, de façon à ce que, ensuite, lorsque nous les prendrons en compte, et nous en aurons 17 000, nous puissions les prendre en compte en bon état.
17 000 contre 4 000 en temps normal, donc c'est
exactement
un défi de très grande ampleur.
Exactement.
Comme le saura hein, Tony, sous ta houlette, ce dispositif d'enregistrement délocalisé, déporté au village des athlètes, qui va être un gain de temps et d'efficacité pour l'ensemble des délégations, et qui est une très belle innovation que je veux souligner de la part du groupe ADP.
J-94, Tony, maintenant ?
Oui, J-94, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un partenariat très important avec le groupe ADP. C'est vrai que s'assurer de l'arrivée des athlètes dans les meilleures conditions, c'est un défi important. Effectivement, il y a des diversités dans les bagages, dans les profils. On a besoin de les prendre en charge de manière sereine dès le premier pas sur le sol français. Et donc, moi, je voudrais vraiment féliciter tout ce qu'a mis en place le groupe ADP depuis un an maintenant, tant pour les Jeux Olympiques que pour les Jeux Paralympiques. Un énorme travail qui a été réalisé également sur la mise en accessibilité. Et donc, je crois qu'on peut se féliciter. Les athlètes vont être accueillis avec sérénité. Il y a un gros dispositif également de sécurité, de pouvoir passer la frontière dans les meilleures conditions pour éviter les files d'attente. Donc c'est vraiment l'État français, le groupe ADP qui se sont mobilisés comme jamais pour montrer le meilleur de la France en termes d'accueil.
Pour la contribution de l'État, on a vraiment fait en sorte de pouvoir contribuer à la fluidité et à la sécurité de l'expérience, avec notamment de la part du ministère de l'Intérieur et du ministère des Transports, la mobilisation d'à peu près 865 agents supplémentaires de la direction de la police aux frontières. L'État va armer 100% des postes de contrôle aux frontières, en même temps que nous avons déployé des équipements nouveaux avec 67 paraphes supplémentaires, ces SAS paraphes, qui vont porter le total à 188 dans nos aéroports à l'été 2024. Non, écoutez, on agit en la matière en parfaite complémentarité. Nous avons une mobilisation des forces de sécurité intérieure qui va être tout à fait exceptionnelle pour ces Jeux, et je veux d'ailleurs saluer leur engagement. Et puis nous avons tout un plan de marche, tout un plan d'action pour le recrutement et la formation d'agents de sécurité privée en collaboration parfaite avec les équipes du comité d'organisation. Nous avons d'ores et déjà 20 000 entrées en formation, un petit peu plus de 12 000 recrutements. Donc cet effort se poursuit, et en même temps que nous appréhendons l'ensemble des besoins en équipe avec des clauses de rendez-vous régulières pour être sûr que notre pays soit parfaitement au rendez-vous de la sécurité.
C'est un symbole, les anneaux olympiques, terminal 1, ça y est, c'est parti. Oui, c'est formidable effectivement de voir ces anneaux sur le terminal 1 d'ici à Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est l'un des grands symboles de notre pays. C'est le plus grand aéroport et c'est vrai que beaucoup d'athlètes, de spectateurs, d'officiels vont arriver par ici. C'est un symbole très fort. C'est assez exceptionnel. Ces anneaux, ils vont orner la ville de Paris dans seulement quelques endroits, très rares. Et effectivement, c'était important qu'il le soit ici, encore une fois, sur ce terminal 1, symbole aussi du terminal international. Donc voilà, on est fiers. C'est une étape symbolique, mais importante. Encore une fois, notre pays se prépare comme jamais. On franchit les étapes les unes après les autres. Le niveau d'ambition est toujours là. Et ces Jeux vont être grands. Et c'est vrai que on a besoin de symboles de temps en temps pour témoigner de tout l'engagement qui est mis en œuvre par les uns et les autres. Et aujourd'hui, c'est une étape symbolique, mais très importante.
Monsieur Romanet, je voudrais qu'on parle un peu du handicap, parce que c'est important.
Ces Jeux vont permettre de franchir ce qu'on appelle un leapfrog, c'est-à-dire un saut de un saut quantique dans le meilleur accueil des handicapés. Je voudrais pour preuve deux illustrations. D'abord des salles de change qui n'existaient pas jusqu'à présent. Nous en aurons trois à Charles de Gaulle, nous en aurons à Orly aussi. Et d'autre part, nous avons fait prendre conscience à toute la communauté aéroportuaire que les personnes handicapées réclamaient d'avoir leur fauteuil jusqu'à la porte de l'avion quand elles quittent la France et de le retrouver dès la porte de l'avion quand elles arrivent en France. Ceci suppose un engagement des prestataires de services de l'aéroport, des compagnies aériennes et des collaborateurs de l'aéroport. Donc c'est toute une chaîne et grâce au jeu, cette chaîne a été sensibilisée et je pense que parmi les héritages des jeux, il y aura le meilleur accueil des personnes handicapées. Je pourrais aussi parler du cordon tournesol qui n'existait pas véritablement dans nos aéroports, qui est le signe de reconnaissance des handicaps non visibles que nos équipes apprennent à connaître et puis nous formons aussi nos équipes au respect des personnes en situation de handicap qu'on a trop souvent tendance à traiter un petit peu comme des bagages, alors que ce sont des personnes qui réclament de la dignité. Et c'est cet enseignement à la dignité qui sera un atout et un acquis, pardon, pour ces Jeux.
Comment vous allez faire face au risque de grève pendant les Jeux ? Vous travaillez ?
C'est un risque par définition. Quand vous parlez de risque, c'est toujours un risque. Mais nous sommes très confiants dans l'état d'esprit de la communauté aéroportuaire qui est vraiment très engagée pour que la France soit fière de l'accueil des athlètes.
Les anneaux seront-ils illuminés le soir ?
Alors oui, nous avons une faculté de les illuminer avec les cinq couleurs. Là, ils sont en blanc parce que c'était une requête pour qu'ils soient bien visibles dans la journée, mais la nuit, ils seront éclairés aux couleurs des Jeux.
Et on voulait peut-être ajouter ensemble un petit mot sur Orly également, puisque nous sommes ici à Roissy, mais Orly va aussi bénéficier de toute cette dynamique des Jeux, avec une très belle complémentarité entre toute cette mobilisation de la communauté aéroportuaire, mais aussi ce qui va se passer à travers la desserte de l'aéroport d'Orly, l'extension au sud de la ligne 14, tous les efforts qui sont menés en la matière par la RATP. Et on aura donc un très bel héritage des Jeux qui permettra de raccorder Orly au centre de Paris en moins de 30 minutes. C'est ça aussi les Jeux. C'est de la fierté, c'est du rayonnement et c'est de l'héritage pour nous permettre d'accélérer les transformations dont nos concitoyens ont besoin.
C'est bon ? Merci beaucoup. Voilà donc pour cette interview donc faite en commun avec l'ensemble de nos consoeurs et confrères donc sur le tarmac de CDG. On va écouter en guise de conclusion eh bien, quelqu'un qui a été double médaillé olympique en taekwondo, médaille de bronze en 2000, médaille de bronze en 2004. Il travaille maintenant pour l'aéroport de Paris. C'est Pascal Gentil. Allez, on y va avec Pascal Gentil. Pascal, ça y est, les Jeux, on a le sentiment, ont véritablement commencé ici à CDG, à l'aéroport.
Oui, on est à J-94 jours. On les prépare depuis des années, ces Jeux Olympiques et Paralympiques, et on est sur le tarmac. On a Tony Estanguet qui est avec nous, on a les Friges, on a tous les collaborateurs du groupe ADP qui sont motivés et qui sont déterminés à faire de ces Jeux une fête. Et pour cela, ce sera dans l'hospitalité, ce sera dans l'accueil et surtout de démontrer nos savoir-faire, c'est-à-dire d'accueillir dans les meilleures conditions.
Oui, ça va être une belle fête parce que y a beaucoup de gens un peu pessimistes, mais la fête va être belle, va être énorme.
Ça va être un moment extraordinaire de convivialité, de fraternité. Les Jeux Olympiques, on oublie de le dire, mais c'est un moment où finalement le sport et la culture se mélangent et ça va être un moment très festif, je vous le garantis.
Quel est votre rôle, vous, à l'ADP ?
Alors aujourd'hui, je suis chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques pour le groupe ADP, qui, mieux qu'un ancien sportif de haut niveau, peut être à même d'expliquer quelles sont les attentes des sportifs. Et voilà, on a accueilli les rugbyman, on a accueilli les triathlètes, on a accueilli les championnats du monde de paraclétisme en juin dernier. Donc je peux vous dire qu'on est prêt et on est très très content, très content.
Et votre rôle ne va pas s'arrêter qu'au jeu, vous allez continuer après.
Je vous garantis, j'ai un contrat indéterminé, donc vous allez me voir encore ici.
Et puis c'est bien, c'est aussi une belle preuve de reconversion parce qu'on sait que parfois il y a des problèmes, des difficultés quand on est sportif de haut niveau.
Que vous voulez dire par reconversion ?
C'est-à-dire
haut niveau, c'est quelqu'un qui a appris que l'échec était le cheminement vers la réussite. Un sportif de haut niveau, il peut être qui il veut à partir du moment où il le décide parce qu'il sait ce que c'est que le travail, la résilience, la persévérance. On parle de reconversion, mais la reconversion, ça ne veut rien dire. Le sportif décide de ce qu'il veut être. Il veut être champion du monde, il veut être homme politique, il veut être acteur, il veut être... Et il le fera parce qu'il sait ce que c'est que l'échec. Et il sait que l'échec est le cheminement vers la réussite.
Très bien. Merci. Voilà, des mots très forts hein, de Pascal Gentil. Une petite réaction sur ces interviews.
Sur Pascal Gentil, simplement on le connaît parce qu'il venait, dès qu'on avait des tournois de personnalités étaient présents. Oui. C'est un garçon qui est très gentil, très correct, et puis qui il va réussir parce que, dire, brièvement, il est intelligent et puis dynamique. Quoi.
Absolument. Allez, Vanessa, les autres infos maintenant olympiques, il s'est passé beaucoup de choses. Je sais que la femme, maintenant, elle est sur un bateau.
Tout à fait. Ouais. Et la flamme est sur un bateau. Elle est partie vendredi dernier du port de Pirée en Grèce pour embarquer sur le fameux Belém. Et elle arrivera à Marseille, qui sera la première escale française le 8 mai. On connaît le premier porteur de la flamme sur le sol français, Florent Manaudou. Et avant ça, tout de même, un petit retour, puisque le 26 avril, vendredi dernier, Tony Estanguet donc, a pris le relais de la flamme.
Trois jours après qu'on l'ait vu.
Exactement, mais voilà. Aussi, on se rappelle que ça avait commencé le 16 avril à Olympie. Mmh. Et puis, deux de nos athlètes françaises, donc Béatrice Hesse, grande championne paralympique, la plus médaillée.
Oui, qu'on avait interviewée lors du dévoilement des médailles paralympiques.
26 médailles tout de même au cours de sa carrière et 5 médailles sur ses derniers Jeux en 2004 à Athènes. Et puis, une grande nageuse. Et puis, l'ex championne olympique en danse sur glace, Gabriela Papadakis, qui a des origines grecques, qui a été championne olympique, plusieurs fois championne du monde, plusieurs fois championne d'Europe avec son partenaire Guillaume Cizeron. Et donc, elles ont porté la flamme à Pirée. Et donc, maintenant, la flamme est en route pour Marseille. Donc, on l'attend sur le fameux Belém. Est-ce que vous savez, Philippe, j'ai quelques petites anecdotes sur le Belém. Il a survécu à des explosions, à des incendies, à une éruption.
C'est pour ça qu'il a été choisi.
Ah oui, on espère qu'il nous portera chance.
Il n'y a pas de raison.
Voilà, et ça c'était pour la flamme. Donc la flamme est attendue à Marseille. Il y aura 6000 forces de l'ordre et puis 150 000 spectateurs attendus à Marseille. Ça va être un beau passage. Mmh. Et je voulais aussi revenir sur le plan de la sécurité, oui, justement. Oui.
Parce que le préfet de police, donc
Laurent Nunez, exactement, Paris, a tenu une conférence de presse. Jeudi, ouais. Oui. Et donc, il a donné des détails sur la sécurisation. Il y aura d'abord une répétition le 27 mai, première répétition générale. Il y a tout un calendrier qui est consultable sur le site de la ville de Paris. Il va y avoir évidemment les abords de la Seine qui vont être en particulier vraiment très sécurisés. Il y a tout un calendrier avec les kéos, les kébas. Et puis, il y aura ce qu'on appelle des zones grises et des zones rouges. Des zones où il y aura besoin d'un laissez-passer numérique où il faudra faire une demande auprès de la préfecture de police de Paris qui peut prendre plusieurs jours. Et il y aura plusieurs variations avec des fermetures de plusieurs coins dans Paris. Ça, c'est juste pour les zones. Et puis donc un accès motorisé très restreint, un accès piéton autorisé, mais encore quand même plus ou moins restreint. Et il y aura aussi des stations qui seront fermées, des ponts qui seront fermés. Je vais tout de même vous donner quelques stations qui vont être fermées pendant les Jeux, pendant tous les cas une période des Jeux. Il y aura les Champs-Élysées, Clémenceau, Cité, Concorde, Iéna, Javel, Passy, Quai de la Rapée, Trocadéro, Tuileries, le Champ de Mars sur le RERC, Musée d'Orsay également et Pont de l'Alma sur le RERC. Ça, c'était pour vous donner quelques stations, puisque forcément, ça va impacter, même s'il y a un site à anticiper, lesjeux.gouv, qui a été mis en place. Mais c'est vrai que forcément, ça va impacter la vie des Parisiens et qu'il y avait eu aussi un certain coup de gueule des habitants et des commerçants dans les zones concernées. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur la sécurité.
Pour ajouter, ça fera donc 320 000 personnes qui seront présentes à la cérémonie d'ouverture. C'est l'équivalent de 5 stades de France quand même. Et puis, il y aura 15 zones d'accueil. Il y aura 65 écrans géants et 79 structures vidéo. Donc, ça va être immense. Cette cérémonie qui va être vraiment novatrice. Il y a d'autres infos ?
Pour l'instant, c'est tout. Mais rien, voilà, tout Florent Manaudou, on a eu l'info aujourd'hui que ce serait le porteur de la flamme. Et on va revenir de toutes les façons au fil des semaines sur le calendrier, les nouveautés. On n'hésitera pas, ça c'est sûr.
Et puis des anecdotes aussi, je crois.
Je vous avais la petite anecdote du Belém. Ouais, est-ce que vous en avez une autre, Philippe ?
Non, il faut le garder pour les prochaines semaines.
Voilà, je les garde en réserve.
Eh ben c'est bien. Eh ben nous on va en attendant écouter la deuxième pause musicale. C'est la musique de Top Gun, l'original, hein, la musique de film. Allez. Allez, dernière partie de cette émission, hein, comme d'habitude, eh bien, on va faire le point foot, on va retrouver notre ami Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe.
Bon, bah, ça y est, Paris Saint-Germain l'a fait, 12e titre de champion de France.
Voilà, tout à fait, bah, comme l'avait dit hein, Luis Enrique, c'était déjà le cas, je pense, après le match nul, hein, parce qu'avec la différence de but, oui. C'est officiel, ça a été officiel, parce que malheureusement, ils l'ont vécu dans leur canapé, mais bon, c'est...
Mm-hmm. Alors voilà. Oui, parce qu'on va rappeler, on s'était peut-être dit, bon, ça arrivera peut-être mercredi, et puis malgré la victoire de Paris assez nette à Lorient 4-1, il a fallu attendre hier dimanche. On va quand même rappeler que Monaco avait battu Lille 1-0 et que Marseille avait partagé le nul avec Nice 2-2 dans ses matchs en retard mercredi. Et puis que ce week-end, donc en plus du PSG Le Havre 3-3, on a eu la victoire de Lille à Metz 2-1, la victoire de Nice aussi qui s'est un petit peu réhabilitée en gagnant à Strasbourg 3-1, Reims qui continue à s'enfoncer en cette fin de saison. Enfin bon,
ouais, c'est dingue. Hein.
Ouais, ouais. Ils se maintiendront sans problème écrasés à Clermont 4-1. Je sais que ça a été une grosse colère de son entraîneur de Reims. Lorient qui a été battu à domicile par Toulouse 2-1. Oula. J'ai bien peur que pour Lorient, ce soit terminé de tout espoir de pouvoir se sauver et même jouer peut-être les barrages. Le match de l'année peut-être, Brest qui va gagner à Rennes 5-4. Et puis la belle victoire aussi de Lyon devant Monaco 3-1. Et puis hier, donc Marseille qui balance 2-1. Donc Stéphane, on l'a dit, Paris Saint-Germain, donc champion de France pour la 12e fois de son histoire, 70 points. Après la lutte, bah, c'est pour les places d'honneur, hein, on le sait. Deuxième Monaco 58, troisième Brest 56, quatrième Lille 55, cinquième Nice 51 et sixième Lens 46. Voilà, pour l'instant, pour les Européens.
Voilà.
Ouais.
On a aussi officiellement donc Brest qui est sûr de jouer une Coupe d'Europe.
Oui, ça c'est sûr.
On ne sait pas encore laquelle, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr de jouer une Coupe d'Europe. Mmh. Et puis ouais, ben voilà. Donc, par contre, c'est toujours hyper intense, même ça commence un petit peu à se dessiner.
Ouais.
Mais c'est hyper intense. Et pareil, je ne vous parle pas de la lutte pour la descente.
Hein, oui, on va en parler. Mais justement, Marseille et Lyon sont 7e à égalité avec 44 points. Ils sont à deux longueurs de Lens. Ils peuvent peut-être passer Lens pour aller chercher cette place qualificative à la Ligue Europa Conférence.
Voilà, ça va être difficile, ouais. Mais c'est vrai que moi, je trouve que Lens est tellement mal. Quoi. C'est vrai que je trouve que Lens est quand même très, très mal. Quoi. Donc, c'était gros comme une maison. Quoi. Donc, ça se voyait gros comme une maison, ça, que Lens allait avoir du mal quand même à terminer. Donc, on ne sait jamais. Moi, je pense tout à fait. J'ai souvent pensé que c'était une équipe qui était quand même un petit peu surcotée, Lens, qui a beaucoup, beaucoup de mal, qui n'a pas d'avant-centre. Hein, on l'a encore vu à Marseille, quoi. Et peut-être qu'il sera, qu'Eli Ouahi apportera tout ce qu'il doit apporter la saison prochaine. Mais en tout cas, cette année, ils ont payé le prix fort, hein, je pense, de jouer sans avant-centre. Hein, vous changez, vous mettez Aubameyang à Lens et Eli Ouahi à l'OM. Je pense que l'OM, il joue le maintien. Ouais, et puis Lens, il joue il joue le podium, quoi. Hein.
Ouais.
Donc, tout est possible. Tout est possible quand on voit Lyon. Lyon qui bat,
Monaco.
Ouais, qui bat Monaco en étant mené en plus.
Ouais, ouais.
Donc c'est assez incroyable quand même, quoi. Donc c'est vrai que tout peut arriver. Maintenant ça va être compliqué quand même.
Voilà. Alors justement, il y a aussi la lutte. On en a parlé hein, en bas du classement. Alors sont concernés Nantes 14e avec 32 points. 15e, Le Havre et Metz, 29 points. 17e, Lorient, même si ça va être très compliqué pour les Lorientais, avec 26 points. Et 18e, donc Clermont, 25 points.
Ouais, tout à fait, ouais. Hein. Alors, 25, Clermont 25,
oui, c'est oui, ça oui, 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 bah, du fait d'avoir ouais. Gagné,
il y a quand même 4 points d'écart, c'est parce que c'est toujours pareil, quoi. On parle, on se rend
il
compte
reste 3 journées, quand même. Hein.
En haut du classement, on dit que, ouais. Moi, à l'instant, on vient d'en parler, hein. Bon, je crois qu'il y a 2 points entre Marseille et. Mais on dit que 4 points, ça peut aller très vite, hein. Ouais. Et puis, en bas du classement, on ne voit pas, il y a quand même que 4 points entre le barragiste Le Havre ouais, et puis ouais, Clermont ouais, par exemple quoi. Ouais, ouais. Donc on sait jamais hein, prochain ouais. Match Le Havre ils ont perdu je crois leurs deux derniers matchs à domicile. Imaginons que le prochain match ça soit le même genre de choses, ils reviennent à un point donc tout peut encore arriver quoi. Donc moi je trouve que je pense ce championnat il est complètement fou quoi, il est, ouais. Il est
excepté Paris
fou, quoi,
qui écrase le reste. Après le reste est la vérité d'un jour et pas celle du lendemain hein. Voilà.
Alors voilà, en fait moi je regardais aujourd'hui là je regardais un petit peu, en fait si vous regardez bien il y a que deux équipes sur les 18 qui ne jouent rien, c'est-à-dire ouais. C'est Strasbourg et Montpellier
voilà c'est ça
ah ouais. 37 et 36 points
ouais.
Avant oui. avant à 40 points, même Reims à 40 points, ouais. quand on sait que le 7e peut être européen, je ne sais pas combien de points le 7e là exactement.
Bah, 7e, mais, ils ont 44 points, c'est Marseille et Lyon, comme on a dit.
Combien 42, c'est ça?
Non, 44. 40... Et Lens 46. Ouais.
Voilà, bah, là, c'est à 4 points de Marseille et Lyon. Mmh. Donc, je veux dire, bon, ça va être très compliqué, on est bien d'accord. Puis c'est la 7e place. Mais tout peut arriver, quoi. Et puis, bah, en dessous de Montpellier, c'est 32 ou de Strasbourg, je ne sais plus lequel, des 2 à 36. Ou 30, c'est 32 points, c'est Nantes.
C'est Nantes, c'est ce qu'on vient de dire.
Et concerné aussi par le. Par la descente, quoi. Donc, non, c'est assez... c'est quand même incroyable. Bon, c'est aussi l'avantage de ce championnat à 18, quoi.
Alors, on va, pour la petite histoire, on va quand même signaler hier qu'il y a eu quand même 40 buts dans cette journée de championnat. Un peu folle. 40 buts, hein. Ouais, je crois que ça doit être la journée la plus prolifique. Hein, ça doit être la journée la plus prolifique.
Ouais. Je crois que ça fait... Ouais. Je crois que c'était 72, 73, 73, 74 le précédent record. Ouais. Donc c'est clair. Mais en plus, ce qui est complètement incroyable, c'est que c'est pas des buts. On peut s'amuser en regardant des buts. Hein. Il peut y avoir 5 fois 5-0, comme on dit, ou 6 fois 4-0. Il y a des buts.
Ouais, mais là, c'est quand même
des rencontres incroyables. Ouais, 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 ouais. Rennes-Brest, je crois que c'est le match de l'année sans aucun problème. Ouais. C'est 5-4. Même quelque part, le Havre, par exemple, 3-3. Saint-Germain, le Havre, mené et avec ce suspense-là. Il y a eu Lyon qui était mené, qui est revenu, qui est repassé devant et qui marque à je sais pas, dans les arrêts de jeu ou à 2 minutes de la fin, qui marque le but de la victoire. Il y a eu à chaque fois des scénarios... Des scénarios incroyables, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas uniquement des buts, c'est bien des buts, mais là franchement
avec des matchs serrés et équilibrés, voilà, et avec des renversements de situation, voilà.
Ouais, des beaux buts, parce que des beaux buts, hein, Rennes-Brest par exemple, il y a eu des buts exceptionnels. Ça a été vraiment non, c'est exceptionnel, quoi. Donc franchement, non, c'était vraiment du beau. Moi qui suis un fervent défenseur de la Ligue 1, je crois que là on a vu tout ce que pouvait apporter ce championnat. Maintenant, c'est peut-être un peu trop rare, ce genre de
eh oui, c'est bien ça le problème, quoi. C'est bien ça le problème. Allez, en Ligue 2, ça reste aussi passionnant. Il y avait deux journées, 34e et 35e journée. On va quand même rappeler, et ça fera plaisir à l'un de nos invités, que mardi, Auxerre a battu Laval 4-0. Victoire de Angers à Guingamp 2-1. De Saint-Étienne qui est allé gagner à Grenoble 2-0. Et défaite du Paris FC à Rodez 1-0. Et puis, ce week-end, on a poursuivi avec la victoire encore de Saint-Étienne devant Caen 1-0. Le PFC qui, cette fois-ci, s'est refait une santé en battant, dans un match important, Angers 3-1. Victoire de Rodez à Concarneau, ça condamne définitivement le club breton. Donc victoire 2-1 pour Rodez. Et puis victoire de Laval qui s'est refait une petite santé en battant Bordeaux 1-0. Ce soir, il y a Dunkerque-Auxerre à 20h45. Donc Auxerre en tête 64 points. Devant Saint-Etienne, deuxième 63. Troisième Angers 61. Quatrième Rodez 56. Et cinquième le PFC 55. Et puis en bas de tableau, 17e 3 37. 18e Rouen, Quevilly et Concarneau 35 points. Et 20e donc Valenciennes 23. 3 points. Là aussi, la lutte est toujours aussi belle. On dit, on se répète chaque semaine, mais c'est vrai.
Ah, mais c'est incroyable, quoi. C'est la lutte. Alors, le problème, après, c'est ceux qui vont arriver le mieux à tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on a vu, par exemple, Concarneau, qui était complètement... qui avait l'air d'être pris un peu par l'enjeu et tout. Donc c'est sûr que... Enfin, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Là bien malin, celui qui peut dire... qui va être...
Ah bah pour les playoffs, oui. Puis on n'a pas cité Caen, mais Caen n'a pas encore dit son dernier mot. Ils sont en embuscade.
Voilà. Bah après tout est possible. Quand on est à ce niveau-là, on a quand même des bonnes équipes. Alors, quand il commence à y avoir 3 ou 4 points d'écart, c'est vrai qu'on se dit, pareil, qu'on le disait tout à l'heure pour la Ligue 1, hein, que tout est tout à fait possible. Maintenant, c'est sûr que vaut mieux quand même être devant. C'est comme là, par exemple, Angers n'est plus qu'à un point de Saint-Étienne. Mais quand vous voyez comment marche Saint-Étienne et qu'ils ont envie à tout prix de cette montée et tout, même ce point-là, il va être difficile à
Ils ont
prendre,
deux points de retard maintenant. Hein. Deux points de retard sur les Verts. Les Verts sont passés deuxième. Hein.
Ouais. Deux points. Donc, c'est pas c'est pas non plus anodin, quoi. Donc,
Alors, justement, parmi nos invités, il y a un supporter de la GIA. Ça va le faire ce soir, là? Ils vont définitivement assurer leur maintien?
Normalement.
Leur retrouvaille en Ligue 1?
Pas leur maintien, leur montée en Ligue 1.
Oui, leur montée, pardon, ouais.
Normalement, sur le papier, oui, bien sûr, hein, puisqu'ils sont en déplacement.
Attention, ils sont à Dunkerque, placement quand même, à Dunkerque. Hein, ouais, qui n'était pas très bien parti, qui était puis qui est bien remonté.
Et qui est redescendu, je crois que...
Oui, un petit peu moins bien, là, maintenant.
D'ailleurs, au match aller...
Ouais. Bon, c'est quand même au Auxerre, mais c'est vrai que là, je crois qu'ils sont redevenus relégables. Là,
ils ne sont pas très loin, dirons-nous. Attention,
ouais, qu'ils fassent attention. Ils ne sont vraiment pas loin, ouais. Donc même ils vont chercher ce qu'il faut et tout, ça ne sera pas évident. Maintenant, au Auxerre... je sais pas si ton invité, je pense, les a joués. Moi, j'ai joué au Serre à la Baie des Champs cette saison. C'est largement au-dessus de toutes les autres équipes de Ligue 2, quoi. Ouais, ils ont eu un passage à vide là qui a fait un peu flipper, je pense, les supporters avec deux matchs, notamment le match à Rodez où ils sont passés complètement à travers le match, juste après avoir perdu à Quevilly-Rouen chez l'avant-dernier. Donc ça fait mal, mais sinon, c'est une super équipe, c'est une équipe de Ligue 1, au CER, hein. C'est pas une équipe de Ligue 2. Hein.
Oui, c'est bon. C'est sûr que ça vaut le Havre ou Metz, hein. Sans problème. Ouais. Hein. Voilà, c'est ça.
Non, allez, exactement.
Ouais. En National, 31e journée, alors le Restar joue ce soir à Nîmes hein, à 21h, mais enfin le Restar, ils ont déjà assuré leur montée pour la Ligue 2. On va quand même rappeler la victoire importante de Martigues à Niort 3-1, ce qui permet à Martigues de passer deuxième avec 53 points, juste derrière donc le Restar 62, et puis troisième Niort 52, alors que Versailles qui a fait match nul donc contre Orléans 0-0, eh bien Versailles en milieu de tableau, 9e avec 43 points. Et puis en National 2, tiens, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Paris Atlético est en tête, Stéphane. Ils ont fait match nul contre Avoine-Chinon 1-1. Il reste deux journées et le Paris Atlético est à égalité avec La Roche-sur-Yon, mais un goal average pour l'instant supérieur, donc 42 points. Troisième Libourne, 39. Donc, il reste deux matchs contre Blois et Angoulême. Donc, à nouveau, une montée du Paris Atlético en National est possible.
En National 2, il n'y a pas des finales de... Non, c'est
non, c'est au championnat tout court. Voilà.
D'accord.
C'est
okay, d'accord.
C'est au championnat tout court. Mais par contre, il faut finir que premier de la poule. Hein. Le deuxième, il ne remonte pas.
C'est extrêmement difficile, quoi. Ce qui est extrêmement difficile. Ouais. Hein. Mais tant mieux. Ouais, non, c'est super. Puis Versailles qui se maintient. Le Red Star en Ligue 2,
c'est bien.
On va voir ce qui va se passer. J'ai peur, malheureusement, que on va voir. Mais bon. Malheureusement, j'ai peur que Habib Bey ne reste pas au Red Star.
On en parle à Marseille, bon, on verra bien.
Ouais, bon, on en parle, non, je ne pense pas qu'il ira à Marseille, Habib Bey. En tout cas, je ne pense pas qu'il va rester. Maintenant, il y a peut-être d'autres clubs où il va aller pour... Le connaissant, il a envie de se faire, je pense, un peu la main ailleurs avant d'aller. Je pense que je ne le vois pas aller, même si... il a effectivement déclaré que ça se refusait pas, que machin, mais que je pense que peut-être son entourage va essayer de le dissuader tout. Je trouve que ça serait une bêtise qu'il aille à Marseille. Maintenant, on ne sait jamais, hein, tout peut arriver. Je le vois plus dans un club intermédiaire, Habib Bey.
Oui. Allez, un petit mot sur les féminines. Hein, on connaît la finale donc, de la Ligue des Champions. C'était bien celle qu'on avait envisagée la semaine dernière. Barcelone-Lyon, ça sera le 25 mai à 18h à Bilbao. Chelsea donc, qui avait gagné au match aller 1-0 à Barcelone, a été battue 2-0 par le Barça. Ça fera plaisir à notre... Alexandre, hein,
absolument. J'ai suivi ce match avec beaucoup d'aplomb.
Bon, bah c'est bien.
Très heureux.
Hein, c'est bien. Elles sont favorites.
On l'avait annoncé.
Favorite, je sais pas.
Pas tout en même temps. Oui.
Favorite, je sais pas, mais ça va être. C'est pas la première fois que les deux équipes se rencontrent ces dernières années en Ligue des Champions. C'est les deux meilleures d'Europe. Mm-hmm. Donc on verra bien.
Très bien. C'est vrai, Stéphane, on l'avait annoncé. Hein.
Ouais, on l'avait annoncé. Et puis là, j'ai pas vu jouer. J'ai pas du tout vu jouer. Cette saison, le Barça, les féminines du Barça, mais j'ai vu jouer par contre plusieurs fois Lyon, et je pense que Lyon, elles sont quand même, je les trouve quand même en perte de vitesse, quoi. Je veux dire, ce double affrontement contre le Paris Saint-Germain, elles s'en sortent quand même super, super bien, quoi.
Oui.
Parce que elles étaient quand même menées, alors de la faute du Paris Saint-Germain, hein, elles étaient quand même menées 2-0.
Oui, au match aller, elles étaient menées 2-0, elles ont renversé la situation 3-2, mais hier, elles vont quand même gagner au Parc 2-1 hier. Elles vont quand même gagner par gain.
Il y a 2-1, ouais. Mais c'est pareil, quoi. Il y a eu des très beaux matchs. Il y a un premier but qui a un petit peu, malgré qu'il ait fait des bonnes choses et des moins bonnes. La gardienne de but de Paris, elle est un peu responsable. Mais je trouve qu'ils ont été ballottés. Et avant de marquer ce deuxième but, on était quand même très, très proche d'une prolongation, d'une égalisation sur les deux matchs par Paris. Je ne les ai pas du tout sentis hyper souveraines et je les ai sentis un peu moins bonnes qu'à une époque. Alors, parce qu'elles ont des blessés, peut-être, c'est vrai aussi qu'elles ont des blessés, mais moi je trouve, bon, c'est que mon avis, hein, mais je trouve qu'elles sont un peu moins souveraines qu'elles l'ont été dans le passé.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Stéphane, 100% d'accord.
En tout cas, elles restent largement en tête en championnat parce qu'il y a quand même une journée de championnat cette semaine. Elles ont battu Guingamp 1-1 alors que le PSG et le PFC dans le derby ont fait match nul un partout. Et pour l'instant, donc largement en tête Lyon avec 61 points. Il reste une journée devant le Paris Saint-Germain, 50 points. Le troisième, le Paris FC, 42 points. Et quatrième, Fleury, 33 points. Pour l'instant, c'est les quatre équipes qui devraient,
voilà,
chez les femmes,
tout,
jouer les
playoffs. Il reste une journée et tout va jouer, oui. Tout va jouer lors de la dernière journée.
Absolument.
Entre Fleury et Reims.
Oui. Oui.
Parce que Fleury est passé devant là et Fleury reçoit Montpellier, je crois, et Reims, ouais, doit recevoir le Paris Saint-Germain.
Ouais, ouais.
Donc je veux dire que ça sera, c'est quand même Fleury qui a l'avantage, à moins que, parce que bon, Paris ne bougera plus de la deuxième place, non. Paris est en finale de la Coupe de France, ouais. Paris a fait là... qu'il a pu en Ligue des Champions, donc ça va peut-être pas non plus être un adversaire imbattable. Donc peut-être que Reims va jouer sa peau et Montpellier ne peut plus revenir dans les quatre, donc ça sera que Fleury ou Reims. Et je laisse quand même un petit avantage quand même à Fleury qui d'ailleurs est devant d'un point ou deux points, donc ça fera des barrages Lyon-Fleury, oui. Et puis PSG
qui trouveront à nouveau pour un derby. En tout cas, le président Bovis, qui donne beaucoup pour le foot à Fleury, mériterait effectivement que son équipe a joué ses playoffs. Je voudrais finir pour te poser une question. T'as rechaussé les crampons avec le président de la République?
Non, ils n'ont pas voulu. C'est tellement.
Ouais, parce que tu étais au match, on va rappeler à plaisir, donc mercredi, avec la victoire du Variété Club de France, de notre ami Jacques Bandrou, qu'on connaît bien, contre le Team Wenger 5-3. C'était pour les pièces jaunes, Stéphane.
Ouais, tout à fait. Alors, c'était un peu c'est des nouveaux concepts que fait en ce moment le Variété et Jacques. C'est des entrées, par exemple, là, ce match de plaisir, ça peut être un peu regrettable aussi quand même.
Invitation.
C'est qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. C'était que sur invitation. Il y avait 2000 invitations, 2000 personnes, je crois, approximativement. Et c'était que des invitations. Alors, moi, j'ai vu des gens à l'entrée qui venaient, qui disaient, monsieur, qui était sur, on est avec les enfants, on peut pas rentrer et tout. Et les gens disaient, bah non, c'est que sur invitation. Ah, ok, très bien, bah, au revoir, monsieur. Ils partaient, quoi. Et je vois là, c'est un peu différent. Là, le prochain match, parce que c'est le Variété, là, c'était le président. Donc, c'est vrai que tout le monde en a parlé. On a vu des images partout et tout. Mais le prochain match, c'est le samedi, le dimanche.
Le dimanche, c'est fait exceptionnellement, parce qu'en principe, on ne joue pas au foot le 5 mai en France, suite au drame de Furiani. Et là, exceptionnellement, puis c'est un match fabuleux, tu vas le dire quoi. Ça va réunir toutes les communautés religieuses, et ça, c'est fabuleux.
Tout à fait, ouais. Ça, c'est encore un coup à la Vendrouille au Variété Club de France, c'est-à-dire c'est l'équipe des prêtres, une équipe nationale de prêtres, je sais pas, on peut pas appeler ça, je crois, l'équipe de France, mais bon, une sélection nationale des prêtres qui va jouer contre le Variété. Et dans l'équipe du Variété, il va y avoir le grand rapin de France, un des imams de la, je crois que c'est de la mosquée de d'Issy-les-Moulineaux, je sais plus exactement. Il va y avoir
les protestants,
un évêque, et ils font une prière à 10 minutes avant le coup d'envoi sur la pelouse. Une prière, ça c'est ça qui est aussi exceptionnel, une prière commune tous ensemble en hommage aux victimes du drame de Furiani. Donc c'est quand même assez. Et là c'est pareil, c'est plus entre guillemets populaire. C'est, il n'y a pas de place non plus, mais il faut simplement, on peut y aller là si vous voulez. Philippe, tous les gens qui nous écoutent. Il faut juste s'inscrire pour juste s'inscrire. Donc, par exemple, sur le site lequotidiendusport.fr, on a mis un article pour présenter l'événement avec les liens internet pour s'inscrire. Mais sinon, par exemple, en allant, si vous entendez que vous ne voulez pas aller sur le site, vous tapez le Variété Club de France sur Google. Ça doit être très certainement indiqué sur leur site, leur page Facebook, quoi. Donc, il faut s'inscrire. Mais c'est gratuit. Oui. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Mais simplement, il faut être inscrit.
Et c'est à Poissy, chez l'ami Carl Olive, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Voilà.
Très bien.
Qui est le président du Variété Club de France, Carl Olive.
Ouais.
Le député...
effectivement. Des Yvelines, voilà. Merci Stéphane, on te retrouve au bout du foot avec toute la team de Malik. Hein.
Ouais, okay, tout à l'heure. Bah, allez, bonne soirée à tous.
Oui. Bonne soirée.
Merci.
À toutes d'abord et à tous. Ouais. Et à la prochaine. Ouais.
Vanessa, tu voulais quoi?
Oui, je voulais juste rajouter une petite info. Ouais. Sachez qu'au centre aquatique qui a été donc en Seine-Saint-Denis, il y aura ce week-end, du 3 au 10 mai, d'abord les championnats, la Coupe du Monde de natation artistique.
Oui.
Puis le water polo et le plongeon. Donc, c'est une occasion de découvrir ce futur site olympique. Donc, voilà pour les personnes intéressées. N'hésitez pas à y aller.
Très bien. Pour finir sur la pétanque, ça se passe comment au niveau de l'arbitrage? Il y a beaucoup de contestations? Parce qu'on parlait des femmes arbitres qui s'investissent beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de contestations?
Il y en a, bien sûr.
Ça joue au centimètre?
Il y en a, bien sûr. Souvent, c'est... Ouais. En rapport avec le règlement, etc. Mauvais comportement de certains joueurs, parce que malheureusement, on est confronté aussi, nous, à la violence et à des mauvais comportements.
Ah bon, quand même?
Quand même, oui.
Même à la pétanque?
Même à la pétanque, oui. Ah, ouais. Vous avez des licenciés qui peuvent être très gentils en dehors des terrains, mais lorsqu'ils ont les boules à la main, ce ne sont plus les mêmes. Et voilà, quelquefois, ça fait quelques conflits. Mm-hmm. Mais nous, au niveau parisien, on va dire qu'on n'a pas trop à se plaindre encore par rapport à certains départements qui sont touchés par la violence. Mm-hmm. D'ailleurs, on a reçu récemment un message de notre président Michel Lebotte, le président de la Fédération française, justement pour appeler un petit peu tous les dirigeants à lutter contre cette violence dans le sport.
Très bien. Est-ce qu'il y a une tenue réglementaire stricte ou est-ce que non, pas de problème, on peut venir comme on veut?
Alors, il y a une tenue réglementaire stricte imposée pour tout ce qui est championnat.
Oui.
À partir du moment où c'est championnat, donc que ce soit championnat départementaux, championnat régionaux ou championnat de France. Voilà, les joueurs doivent être en tenue homogène. Tenue homogène club lorsque ça se passe au niveau du département ou de la région.
Chaque club a sa couleur. Quand même.
Chaque club a sa couleur, évidemment, avec ses écussons, avec ses couleurs. Et donc après, avec une tenue homogène qui représente leur département ou leur région lorsqu'ils sont qualifiés pour les championnats de France.
Très bien. Et pour finir, on parlait du club le plus important, c'est le club du Luxembourg. On parlait de Carl Olive, député, mais les sénateurs, ils ont un bon club, pas bien loin de leur... Alors, palais.
Je ne pense pas qu'au jardin du Luxembourg, ils aient des sénateurs dans
non.
leur
ouais. Non, mais dans, c'est le
dans leur
licencié. Non, mais c'est juste mais en face.
Ils jouent dans les jardins du Luxembourg. On sait très bien que le jardin du Luxembourg appartient au Sénat.
Hein. Voilà, c'est ça.
Voilà. Et un petit peu comme nous, puisque avec Claude Azéma qui est présent ce soir, Claude avait créé le club de l'Assemblée nationale pendant 32 ans. Et voilà, où on avait des députés aussi.
Très bien, merci messieurs, ça a été un plaisir, hein, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme les 85 émissions précédentes, elle sera aussi rediffusée. Merci à toutes et à tous, on vous laisse avec Malik au bout du foot qui va aller encore plus loin dans l'actualité du ballon rond, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Et je voulais finir avec Henri Salvador, et puis merci en tout cas donc à Léonard pour avoir monté ça très rapidement en domaine maître. Une énorme pensée pour Jason. Et puis on termine donc avec Henri Salvador, hein, qui pour la pétanque, qui était un grand joueur de pétanque. J'ai retrouvé ses jardins d'hiver. Belle soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Mon Paris